France Inter. France Inter, le 18-20. Fabienne Sintès.
Un jour dans le monde, un jour aux États-Unis ce soir.
I've said it very simply, I'll say it once again. It's an old military adage, but we would rather send bullets.
Voilà, c'est Mike Johnson, le speaker à la Chambre des représentants avec cette phrase hier. Je l'ai dit très simplement et je le répète, c'est un vieil adage militaire, mais nous préférons envoyer des balles dans le conflit à l'étranger plutôt que d'envoyer nos propres garçons, nos troupes. Bonsoir Anne Desine.
Bonsoir.
Vous êtes juriste et américaniste, vous êtes professeur émérite à l'université Paris-Nanterre. Je vous salue aussi Léo Perrier-Peignet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur au Centre des études de sécurité de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Un décryptage donc en deux temps ce soir pour comprendre à la fois ce qui subitement a fait virer les Républicains à la Chambre et comprendre aussi ce que cette décision permet de débloquer justement pour l'Ukraine et jusqu'à quel point ça va changer sur le terrain. Anne Desine, c'est vous qu'on attend d'abord sur le volet politique. 6 mois de refus et subitement voilà que le speaker Johnson aurait lu des rapports de la CIA et compris que c'était grave et qu'il fallait donc continuer à aider l'Ukraine. Ça semble un peu court, non ?
Alors, c'est un véritable alignement de planète. Il y a plusieurs facteurs. C'est vrai que depuis janvier, un certain nombre d'entre nous espérions qu'un jour, le projet de loi serait voté. Mais en fait, il y a eu, commençons par cela, une certaine évolution de Trump. Il y a 15 jours, Mike Johnson était chez Trump en Floride et on s'est rendu compte dans les conférences de presse que Trump n'était plus si ouvertement opposé à l'aide à l'Ukraine. Il parlait de faire payer les Ukrainiens, de se payer sur les intérêts des avoirs saisis aux Russes, etc. Et donc, je pense que Mike Johnson est reparti avec l'idée que bon, Trump avait peut-être pris conscience que c'était dans son intérêt.
Il est reparti avec l'imprimatur même, Anne Desine,
presque,
en fait. Hein.
Voilà, exactement. Et que, oui, mais ce qui est intéressant, c'est ce que vous avez dit. C'est-à-dire qu'on est parti. C'était pas du tout gagné. C'est quand même quelqu'un que personne ne connaissait. C'est un élu de Louisiane, qui est quand même l'un des États les plus conservateurs. C'est un évangélique. Il l'a bien expliqué. S'il est speaker, c'est la volonté de Dieu. Il est trumpiste jusqu'au bout des doigts. Et il a participé au refus de certification. Donc, c'est cet homme-là qui est devenu leader par hasard, parce que les extrémistes ont refusé les modérés comme speaker. Et le centre a réussi à s'opposer au plus frénétique des Trumpistes, Jim Jordan. Et donc, cet homme se trouve propulsé speaker et il prend conscience qu'il ne peut plus faire n'importe quoi, qu'il a quand même quelque part une responsabilité pour gouverner, pour adopter des projets, pour sauver le budget, pour avoir un budget de défense, etc.
Il prend conscience, Anne Desine, et en même temps, on voit bien que parmi les Trumpistes purs et durs, on n'entend pas ce qu'on avait entendu lorsque le précédent a été quasiment destitué. On entend Marjorie Taylor Greene, la représentante en Géorgie, mais finalement pas les autres. Donc est-ce qu'il s'est passé aussi quelque chose au fond, dans le camp républicain, qui fait que les voix très très Trumpistes, les voix MAGA, comme on dit, sont finalement moins bruyantes là, dans cet instant-là, cette séquence-là, qu'elles l'ont été avant?
Oui, alors il y a cet aspect-là, mais il ne faut pas négliger les démocrates. Les démocrates ont rassuré Mike Johnson depuis 2 mois. Depuis 2 mois, ce sont des projets bipartisans pour le budget, pour la défense, pour la loi de surveillance qui vient d'être réadoptée et prolongée. Donc il y a ça, et il y a la prise de conscience des républicains encore un peu modérés, que 20 de leurs collègues ont démissionné parce qu'ils en ont assez. Certains n'ont même pas fini leur mandat jusqu'en novembre. Ils sont partis en claquant la porte. Et donc ces gens-là, on les écoute et ils disent, il y en a assez. Il y en a assez de ce chaos. On n'est pas là pour ça. On a été élus pour avancer, pour faire avancer les choses. Et donc, effectivement, le rapport de force s'est inversé.
Est-ce qu'on peut, dernière question, Anne Desine, est-ce qu'on peut imaginer qu'ils sont suffisamment cyniques aussi pour se dire, aussi bien Johnson que Trump, d'ailleurs, que ça ne peut pas être de leur faute, ça ne doit pas être de leur faute si d'aventure l'Ukraine perdait la guerre ?
Alors, je pense que Trump s'est dit, si je redeviens président, c'est peut-être pas une bonne idée que l'Ukraine soit trop affaiblie, parce que dans ce cas, il est clair que Poutine continuera à avancer, et là, je porterai la responsabilité. Comme on sait que cet homme ne prend ses décisions qu'en considérant son intérêt personnel, je pense que ça a joué un rôle.
Anne Desine, je vous remercie beaucoup. Léo Perrier-Peignet, si on regarde maintenant ce que ça veut dire, en fait, c'est 61 milliards qui sont finalement adoptés. On a entendu le Premier ministre polonais Donald Tusk dire « mieux vaut tard que trop tard ». Il y a beaucoup d'ironie là-dedans, mais est-ce que vous dites pareil, mieux vaut tard que trop tard ?
Disons que l'interruption de l'aide américaine, elle est arrivée un peu au pire moment. Elle est arrivée un peu au moment où les Européens n'avaient plus de stock et les flux industriels européens n'étaient pas encore suffisamment élevés pour prendre le relais, si vous voulez. Donc là, les 6 mois d'interruption ont fait beaucoup de mal aux forces ukrainiennes qui ont dû reculer, qui reculent encore. Et c'est pour ça que le président Zelensky a d'ailleurs dit qu'il fallait que l'aide arrive vite, voire très vite, à moins de voir des pertes insoutenables en matière territoriale comme en matière d'infrastructure.
Alors ça, c'est possible parce qu'il va y avoir le vote au Sénat, mais c'est dès demain que commencent les réunions au Sénat. Donc ça peut aller extrêmement vite. 14 milliards pour former l'armée, pour l'équipement militaire, 10 milliards pour l'assistance économique, 13 milliards pour les systèmes de défense, 11 milliards pour les opérations du Pentagone dans la région, missiles anti-chars, défense aérienne, matériel de cyberdéfense. C'est quand même un immense package. Est-ce qu'on dit quand même qu'il est de nature à bousculer la situation sur le terrain ou pas?
Oui, je pense que là, ça va permettre aux sous condition qu'il arrive vite, ça va permettre aux Ukrainiens de stabiliser la situation. Au sens où, de quoi a besoin l'Ukraine en ce moment? Elle a besoin de munitions pour sa défense antiaérienne. Pour le moment, les Patriotes et peut-être le Sempé français sont vides. Elle a besoin de munitions d'artillerie pour briser les assauts des Russes. Elle a besoin de matériel anti-char pour empêcher les blindés russes de s'approcher.
Ça veut dire quoi vite, Léopéria Peignet? Ça veut dire dans les semaines vraiment qui viennent, parce que on sait bien qu'il y a une offensive russe qui est sur le feu sans trop savoir à quel moment, au mois de mai, au mois de juin, peut-être une nouvelle grande ville, peut-être un Kharkiv. Ça veut dire quoi très vite?
Alors, je resterai prudent sur les possibilités des Russes à relancer d'autres attaques, sachant que ça fait quand même plusieurs mois qu'ils sont sur une posture très offensive avec des pertes qui sont extrêmement lourdes. À moins d'une surprise, je serais quand même assez réservé. Néanmoins, les forces américaines ont des stocks en Europe via l'OTAN qui peuvent aller extrêmement rapidement sur le terrain ukrainien pour soulager l'armée ukrainienne. Et ça, c'est même pas une affaire de mois. À partir du moment où je pense que même en ce moment même, le Pentagone est en train de prendre des mesures pour que dès que ce sera livré, hop, on passe la frontière ukrainienne, si vous voulez.
Ce que vous dites, c'est que même si l'Ukraine est dans une position difficile en ce moment, s'il devait y avoir eu offensive, et surtout si la Russie avait vraiment les moyens de reprendre le dessus, elle l'aurait déjà repris le dessus?
Non, je ne serais pas aussi catégorique que ça. Je pense que la Russie essaye de toute manière de prendre le dessus, et ça fait déjà plusieurs mois, hein, avec Avdiivka et tout ce qui s'est passé autour de ça. Je pense que les Russes sont aussi assez surpris que le package soit passé à la Chambre, ce qui n'était pas forcément prévu, ouais. Et moi-même, j'y croyais pas forcément il y a de la semaine dernière. Donc là, je pense que les Russes, qui, de leur côté, ont aussi souffert. Hein. L'atout principal de l'armée russe, c'était les stocks soviétiques. Ces stocks-là, ils sont de plus en plus limités, parce qu'ils sont de plus en plus vidés, si vous voulez. Les véhicules qui restent dans les parcs sont des véhicules qui sont inexploitables. Donc, cette logique-là, elle va arriver au bout à un moment.
Zelensky dit stabiliser d'abord et reprend l'initiative ensuite. On entend bien le stabiliser d'abord, à quel point il faut non seulement se remettre en état en termes de munitions, d'obus, etc., mais surtout laisser souffler en fait le front ukrainien. C'est ça que ça veut dire?
Très clairement. Je pense que là, il va falloir déjà, oui, stabiliser le front, arrêter les Russes qui grignotent petit à petit, mais qui grignotent, en leur infligeant des pertes qui brisent en fait leur potentiel offensif de manière plus prégnante. Maintenant, reprendre une posture offensive, c'est pas... Enfin, on va voir ce qu'il y a dans le package, mais ce qui leur manque, au-delà des munitions, c'est surtout du matériel du génie et anti-mine, pour espérer reprendre l'initiative. Ça me semble encore d'une autre temporalité, si vous voulez.
Dans le texte, dans ce qu'il dit, Mike Johnson, le speaker à la Chambre, il dit ceci. Il dit « L'objectif du soutien américain est de donner à l'Ukraine la possibilité de se défendre et de remporter la victoire sur la Fédération de Russie. » Les États-Unis, donc, officiellement, ont pour but la victoire de l'Ukraine sur la Fédération de Russie. Est-ce que c'est pas, dans la bouche en tout cas de ces gens-là, est-ce que c'est pas assez neuf, au fond, de le dire de manière aussi claire et aussi nette dans la bouche de ces républicains-là? Et qu'est-ce que ça dit, à votre avis, pour la suite?
Bon, c'est des déclarations politiques dont j'accorderai une valeur quand même extrêmement limitée. Mm-hmm. Je pense que si Trump ou d'autres changent d'avis la semaine prochaine, ces déclarations-là, elles seront nulles et non avenues. Mm-hmm. Je serai assez méfiant. Néanmoins, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les États-Unis vont peut-être jouer le jeu de Poutine, au sens où Poutine voulait jouer la guerre d'usure. Ils vont avoir la guerre d'usure, sauf que les Ukrainiens, avec le matériel nécessaire, pourront limiter leurs pertes, infliger des pertes lourdes aux Russes qui sont de plus en plus difficiles à remplacer, parce qu'on est un pays qui est aussi vieillissant, et notamment en termes de matériel. Mmh. Donc, à voir.
Les Russes sont des hommes, cela dit, les Ukrainiens, eux, manquent d'hommes, et jusqu'à quel point cet équilibre-là, sur le front, sera toujours favorable aux Russes?
Ça, c'est une question extrêmement vaste et extrêmement complexe, donc je ne vais pas essayer d'y répondre ce soir. Mais je pense néanmoins qu'en l'état, donner aux Ukrainiens les moyens de se défendre, donner aux Ukrainiens des armes de qualité qui leur permettent de frapper plus loin, plus vite, avec le renseignement américain, c'est permettre aux Ukrainiens d'économiser des hommes. Mmh. Et c'est très clairement ce qu'eux-mêmes disent. Hein. Ils disent « Donnez-nous des obus, les obus européens sauvent des vies ». Les armes qu'on leur envoyait portent plus loin, sont plus précises, et c'est tout à fait reconnu par les Ukrainiens eux-mêmes.
Alors, donnez-nous des obus, et pas seulement, il y a 8 milliards de ce que j'ai vu dans ce package-là, qui vont servir notamment à continuer à payer les salaires et payer les retraites, c'est ce que dit le Guardian ce matin, le Guardian de Londres. Et ça dit quand même, ça parle de l'état de l'Ukraine, ça aussi, que cette aide-là doit aussi servir à payer les soldats et payer les retraites.
Disons qu'on est dans un pays dans lequel l'économie de guerre, c'est pas une formule. Vous avez, je crois, plus du tiers du budget de l'État qui est consacré à la guerre. Et à côté de ça, vous avez d'énormes problèmes de financement. Mais là, pour le coup, l'aide américaine, je dirais pas qu'elle est moins nécessaire, mais je dirais que là, l'Europe, l'Union européenne a plus de cartes à jouer. Et c'est là-dessus qu'elle joue. Quand vous voyez les financements, les pays européens et l'Union européenne, en tout, ont plus contribué en termes financiers que les États-Unis. Mais là où les Européens ont du mal, c'est à fournir de l'armement. Alors que de fournir des sommes pour les retraites, pour les salaires, c'est moins un problème.
Après, je suis frappé, Léo Perrapeignet, vous me direz si vous l'êtes aussi, dans le revirement américain, il y a les mots d'effondrement qui ont été prononcés. Il y a l'idée qu'un effondrement ukrainien est possible, aurait été possible sans l'aide américaine. Et je me demandais si désormais ce mot-là, cette idée d'effondrement américain, ukrainien, n'était plus tabou et que ça disait aussi des choses, en fait, d'envisager ça.
Ah oui, non, je pense que la situation ukrainienne avant le vote du package était peut-être la plus critique depuis le début de la guerre. Ça, c'est même pas une question. Ils n'avaient plus les moyens d'entretenir un rapport de feu correct, ils n'avaient plus les moyens de protéger leur ville contre les attaques aériennes. Donc on était à un moment où, si l'Ukraine continuait sur cette pente sans aide, sans réaction des Européens, il se serait passé des choses avant l'été.
Il se serait passé des choses avant l'été, mais là, l'idée d'un effondrement, on en parlait. Moi, j'avais l'impression que c'était quelque chose qu'on n'osait pas prononcer jusqu'à présent. Est-ce qu'aujourd'hui, on ose prononcer cette éventualité-là qui existe ?
Bon, dans les médias, peut-être. Je pense qu'entre nous, chercheurs, dans notre petite communauté un peu endogame, ça a été assez envisagé assez vite. Je vous rappelle aussi qu'au début de la guerre, c'était une idée qui était envisagée quand même très souvent. Enfin, dès qu'il y avait une difficulté, vous aviez des réactions politiques, médiatiques, qui disaient de toute façon... Aider encore l'Ukraine, c'est jeter de l'eau dans un puits sans fond parce que les Ukrainiens vont s'effondrer. Ça fait 2 ans, bientôt et demi. Belle performance, quand même.
Alors, je ne vais pas marcher sur les plates-bandes de Franck Madvon qui vient de s'asseoir et qui interviendra tout à l'heure autour de ces questions-là, mais ne rien faire, et ce serait la dernière question, est-ce que ne pas apporter ces 60 milliards, c'est aussi mettre Poutine en position de ne pas dicter les termes de quelques règlements que ce soit, de toute façon, à un moment ?
On est dans une logique d'attrition. À un moment, soit l'Ukraine, soit les Russes n'auront plus le potentiel pour maintenir une guerre soutenable. Et à partir de là, l'un ou l'autre sera en position de force pour négocier. C'est à peu près comme ça que ça va fonctionner. Quoi qu'en disent certains politiques en France, c'est pas en allant voir les uns et les autres pour essayer de faire une consultation que ça marchera. Donc à partir de là, 60 milliards. Et après, on verra, une éventuelle reprise de l'approvisionnement. Ça veut dire que l'Ukraine a de nouveau les cartes en main pour contraindre la Russie à négocier. Ça ne sera pas tout de suite, parce que la Russie a encore du potentiel. Mais de notre côté, l'Europe monte en gamme. Les Allemands veulent produire 1 million d'obus d'ici 2030. La France voudrait atteindre péniblement 100 000 d'ici 2025. Bon, je pense aussi que l'Europe, de ce point de vue-là, est quand même plus forte en 2024 qu'en 2022.
Ben écoutez, en attendant, on n'est qu'en 2024 et on verra la suite. Puis on écoutera Franck surtout tout à l'heure. Léo Perrapeignet, vous êtes chercheur au Centre d'études de sécurité de l'IFRI. Et je vous remercie beaucoup de votre passage chez nous.
Le 18-20, Fabienne Synthèse. Sur France Inter.
La suite, ça se passe en Chine où le gouvernement clame avoir éradiqué la grande pauvreté. Nous irons dans une province qui dit plutôt le contraire. Pour aller jusqu'à 19h, Céline Aslo, sous les radars.
Et une question ce soir, l'oncle de Joe Biden a-t-il vraiment été mangé par des cannibales ou est-ce la nouvelle gaffe du président américain ?
Le Monde à 18h50, c'est vous Franck Madvon donc, bonsoir.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. J'hésite à revenir parce que là vous avez tout défloré.
C'est faux, c'est tellement
On verra pourquoi l'aide américaine à l'Ukraine renforce la main de Kiev en vue de possibles négociations avec Moscou, même si ce n'est pas pour demain, bien sûr.
Allez, la BO du monde et vous, Cyril Sauvageau. Salut Cyril.
Bonsoir, je vous emmène au Portugal pour les 50 ans de la Révolution des œillets. On verra comment le fado, cette musique de l'âme typiquement portugaise, a accompagné l'histoire du pays, de la dictature à la démocratie.
Allez, à tout de suite tout le monde, le tour de la planète commence à peine. Il traverse les États-Unis de Brooklyn jusqu'à Los Angeles avec Aaron Fraser, Payback, extrait de son nouvel album, ça sort au mois de juin. We'll be right back. Le reportage nous emmène donc en Chine ce soir avec cette question. Le régime chinois a-t-il réellement, comme il l'affirme, éradiqué l'extrême pauvreté? La grande pauvreté a disparu officiellement depuis 2020. C'est ce que dit le régime chinois. Grande pauvreté éradiquée grâce à un énorme travail mené depuis le début de l'année 2010. Alors c'est vrai que le niveau de vie des Chinois s'est nettement amélioré, mais dans ce pays champion des nouvelles technologies, on parle une partie de la population continue de vivre dans des conditions extrêmement précaires, notamment dans les campagnes. Nous allons dans le Gansu, c'est l'une des provinces chinoises les plus pauvres dans le nord du pays. Et le reste, c'est Sébastien Berriot qui raconte.
Malgré l'arrivée du printemps, le vent est encore glacial dans les rues de ce petit village du Gansu. Entre deux blocs de maisons, des bruits de bêches viennent briser le silence. Le dos courbé, une vieille femme de 72 ans est en train de travailler dans un champ avec son mari.
Je dois travailler pour pouvoir acheter de la nourriture. Je fais du désherbage dans les champs. Je travaille comme ça pendant quelques mois. Je gagne quelques sous, mais pas beaucoup.
Officiellement, le village est sorti de la pauvreté depuis 4 ans. Les aides du gouvernement ont permis d'améliorer le quotidien des habitants. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de subventions. Et dans ce secteur de moyenne montagne, très aride, les conditions de vie restent précaires. La région est traversée par une grande route nationale qui mène à la capitale provinciale Lanzhou, mais cela n'apporte que peu d'activité pour les populations. Sur le bord de la route, quelques commerces sont installés. Cet homme partage ses activités entre sa toute petite épicerie et l'agriculture.
Nous vivons de la terre, mais c'est difficile. Je plante des patates et du maïs, mais c'est très sec. Et le prix du maïs est très bas en ce moment. J'ai aussi cette épicerie, mais ce n'est pas suffisant pour vivre. Il y a beaucoup de familles pauvres ici. Officiellement, nous sommes sortis de la pauvreté, mais en fait, nous sommes pauvres.
Sa voisine de 68 ans, elle aussi tient une petite épicerie. Elle vit avec un petit peu plus de 3 euros par jour. À demi-mot, elle ose, elle aussi, remettre en cause le discours officiel sur l'éradication de l'extrême pauvreté, grande priorité du président Xi Jinping.
Les subventions, il y a des familles plus pauvres que moi qui les touchent. Moi non. Mais nous ne sommes pas sortis de la pauvreté. C'est encore dur. Les revenus sont bas, les céréales ne poussent pas dans les champs. Je pense que si le gouvernement donnait des subventions à toutes les familles, alors nous pourrions sortir de la pauvreté.
À quelques kilomètres de là, autre village de paysans où ce couple élève quelques moutons pour survivre.
Ce chemin, vous voyez, je le pratique depuis 50 ans, il n'a pas changé. Voilà, notre vie est comme ça.
Si je n'avais pas ces moutons, je n'aurais pas de ressources financières. Ça me permet d'acheter des médicaments, de payer les frais d'électricité et les engrais. Mais ça n'est pas assez pour manger. Les gens disent que nous sommes sortis de la pauvreté, alors nous sommes sortis de la pauvreté. C'est comme ça. Mais je ne peux plus travailler, je suis vieux. Je souhaite que le gouvernement nous donne des aides.
On est ici très loin des grandes usines chinoises qui exportent dans le monde entier. Mais dans ces campagnes aussi, le ralentissement de l'économie depuis le Covid se fait ressentir, raconte ce paysan.
L'économie n'est pas bonne. Il n'y a pas de boulot dans les chantiers et même dans les usines dans le sud du pays. Du coup, les villageois restent ici. Avant, presque 40 villageois partaient travailler et seules les personnes âgées restaient ici. Cette année, ils ne sont même pas partis après le nouvel an.
Et difficile de compter sur les retraites, ces paysans perçoivent généralement de toutes petites pensions qui peuvent, dans la province du Gansu, dans certains cas, ne pas dépasser les 113 yuan par personne et par mois, l'équivalent de 14 euros.
Un reportage rare signé Sébastien Berriot. Merci beaucoup. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Céline Aslo. Et Céline, nous sommes d'abord à Rio, donc au Brésil, où Elon Musk était hier la star d'une grande manifestation d'ultra-conservateurs.
Oui, alors il n'était pas présent, le fondateur du réseau social X, mais son portrait était partout, sur les pancartes, sur les banderoles des milliers de manifestants.
Obrigado Elon Musk, merci à toi de défendre la liberté d'expression. Elon Musk devenu le héros de l'ultra-droite brésilienne, le symbole de celui qui dit tout haut la vérité sur le système, depuis qu'il a traité de dictateur, un juge de la Cour suprême brésilienne. Alors ce juge s'appelle Alexandre de Moraes, il a fait de la lutte contre la désinformation son cheval de bataille ces dernières années. Eh bien, il a ordonné la fermeture de comptes appartenant à des figures du mouvement ultra-conservateur sur les réseaux sociaux. L'ancien président Jair Bolsonaro crie à la censure judiciaire, c'est lui qui a d'ailleurs initié la grande manifestation hier de Rio. Mais ce coup de pression et sa proximité affichée avec Elon Musk ne semblent pas impressionner le juge. Ce n'est pas la première fois, dit-il, que la justice fait face à des étrangers qui traitent le Brésil comme une colonie.
Hello.
Hi. Hi, Diva.
Et direction maintenant le Royaume-Uni, où l'appli de rencontre Grindr est poursuivie en justice.
Oui, il y a 650 plaignants, selon le cabinet d'avocats qui porte l'affaire devant la Haute Cour de Londres et qui précise que des milliers d'utilisateurs britanniques pourraient aussi être concernés. Alors Grindr, c'est l'appli de rencontre la plus utilisée dans la communauté LGBT. Elle est accusée d'avoir partagé avec des sociétés tiers certaines données personnelles de ses inscrits, des données très sensibles sur la provenance ethnique, sur l'orientation sexuelle ou encore sur le statut VIH, ce qui va à l'encontre de la loi selon ce cabinet d'avocats. Alors Grindr assure n'avoir jamais vendu des données, que ces informations n'ont été partagées qu'avec des prestataires chargés d'améliorer son service et que cette pratique a cessé depuis plusieurs années déjà. Mais cette plainte est une affaire très sérieuse pour l'entreprise américaine qui risque d'avoir à débourser des dizaines de milliers d'euros de dommages et intérêts.
Did cannibals eat President Biden's uncle during World War II?
Dit comme ça, est-ce que des cannibales ont mangé l'oncle du président Biden, quand même? C'est une question qui fait polémique. Alors cet homme a-t-il été mangé par des cannibales?
Alors c'est le président américain qui a raconté cette étonnante histoire familiale il y a quelques jours, alors qu'il rendait hommage aux combattants de la Seconde Guerre mondiale. C'est l'histoire de son oncle, le lieutenant Ambrose Fingan, surnommé Oncle Bozy, dont l'avion s'est écrasé en 1944 au-dessus de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Son corps n'a jamais été retrouvé et pour cause, dit Joe Biden. À cette époque, il y avait beaucoup de cannibales dans cette région du monde. Alors évidemment, ça n'a pas beaucoup plu aux habitants de ce pays d'Océanie qui se battent depuis des années contre les clichés tenaces sur leur prétendu cannibalisme. Et ce matin, le Premier ministre papouasien a affirmé que Joe Biden avait dû confondre. Il a sans doute eu, dit-il, un moment de confusion. Alors c'est vrai que le président américain a quelque peu romancé l'histoire de son tonton, car des documents militaires publiés par les médias américains prouvent que son avion s'est écrasé non pas en Papouasie, mais au milieu de l'océan Pacifique. Une nouvelle approximation qui vient relancer les critiques du camp républicain sur l'état de santé de Joe Biden à quelques mois, bien sûr, de l'élection présidentielle.
Il a peut-être été mangé par des poissons.
Mais voilà,
donc,
peut-être.
Voilà. Céline Aslo, merci beaucoup. Vous partez avec Coldplay et le Buena Vista Social Club. Ça s'appelle Clocks, c'est dans Un Jour dans le Monde et sur France Inter.
Tried to
Clocks et Coldplay avec les musiciens du Buena Vista Social Club. Le Monde à 18h50. Dans Un jour dans le monde, c'est Franck Madvon.
Fabienne Saint-Dès. Le 18-20.
On en parlait donc tout à l'heure en ouverture de l'émission. Franck, le Sénat américain commencera à examiner demain le plan d'aide à l'Ukraine voté samedi contre toute attente par la Chambre des représentants. Ce soir, vous nous expliquez pourquoi l'Ukraine dispose désormais d'une meilleure main en cas de négociation avec la Russie.
Alors bien sûr, Fabienne, il n'est pas pas question pour le moment de négocier. L'Ukraine n'acceptera de discuter avec la Russie qu'après le départ de toutes les forces russes de son territoire. Et ce territoire, c'est celui des frontières de 91 au moment de l'éclatement de l'Union soviétique. L'Ukraine comprend donc la Crimée, le Donbass, en clair les quelques 20% du pays aujourd'hui occupé par l'armée russe. Évidemment, Moscou ne retirera pas ses troupes de ces régions et par conséquent, l'Ukraine ne négociera pas demain. Mais le sujet reste dans l'air. Vladimir Poutine l'évoque régulièrement. Il se dit favorable à des discussions réalistes et a souligné récemment que les pourparlers du début de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, sous l'égide de la Turquie, étaient sur le point d'aboutir lorsque Kiev y a mis fin.
Et l'Ukraine prévoit même un sommet au mois de juin.
Oui, un sommet de la paix qui doit se tenir en Suisse à la mi-juin. L'objectif est de rassembler un maximum de pays pour discuter de la fin de la guerre en Ukraine. Mais la Russie n'est pas invité. Sans surprise, Poutine raille cette conférence à laquelle il n'est pas convié. Un diplomate européen admet que ce n'est pas réaliste justement de la part de Kiev. Il y voit toutefois un avantage. Les Ukrainiens prennent ainsi l'initiative et contournent les propositions de négociation de certains pays comme la Turquie, le Brésil ou la Chine. Ce même diplomate ajoute « La question des négociations finira de toute façon par se poser ».
Donc il ne faut pas affaiblir les positions de l'Ukraine.
Oui, les alliés de l'Ukraine ne veulent surtout pas contraindre le pays à négocier, ce serait maladroit et contre-productif. Et à Kiev, personne n'est aujourd'hui prêt à cela, mais ils veulent lui permettre de discuter dans les meilleures conditions possibles s'il devait ouvrir la porte à des pourparlers. C'est aussi dans ce but que l'Ukraine a besoin de l'aide occidentale. Les 60 milliards de dollars d'aide américaine ne serviront pas seulement à financer la défense antiaérienne ou à remplir les stocks de munitions, ils ont également une portée symbolique. Le président Zelensky peut enfin affirmer « Non, l'Occident ne nous abandonne pas, nous sommes toujours autant soutenus. »
Et Moscou a plus de mal à imposer son récit.
Oui, depuis l'été dernier, l'idée que l'Ukraine est en train de perdre la guerre fait son chemin. La contre-offensive a échoué, Kiev manque d'hommes et de munitions, Zelensky est moins populaire, l'aide occidentale s'essouffle et Vladimir Poutine a été réélu triomphalement. Aujourd'hui, ce récit s'enraye. Les États-Unis signent enfin un nouveau chèque. Les Ukrainiens résistent toujours. Ils ont notamment lancé un chantier colossal pour défendre leur ligne avant une possible offensive russe cet été. Ce n'est qu'en position de force que Kiev pourrait accepter des négociations et donc d'éventuelles concessions. On n'en est pas là, Fabienne. Naturellement, le processus sera très long, mais il a peut-être démarré ce week-end avec le déblocage de l'aide américaine.
Franck Madvon, tous les soirs dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup. Le lundi, Cyril Sauvageau écoute le tempo de la planète et aujourd'hui, ça sonne particulièrement juste et ça fait pleurer aussi. C'est la BO du monde.
France Inter. Le 18-20.
La BO du Monde qui est au Portugal, Cyril, ce soir où l'on commémore cette semaine les 50 ans de la révolution des œillets, coup d'état du 25 avril 1974 qui a mis fin à la dictature. Et ce jour-là, comme souvent dans l'histoire du pays, c'est le fado, la musique traditionnelle portugaise qui a joué un rôle prépondérant.
Il arrive parfois qu'une simple chanson change le cours de l'histoire. C'est rare, mais c'est ce qui s'est passé au Portugal en 1974. Cette chanson, elle est signée José Afonso, grand artiste de fado, dont la musique est alors censurée. Le soir du 25 avril, la radio officielle de l'église se met à diffuser ce titre, Grandola Vila Morena. C'est le signal, le message codé qu'attendaient les militaires putschistes pour faire tomber la dictature. Cette chanson va devenir l'emblème, la bande-son de la révolution des œillets et José Afonso sera célébré comme une légende vivante jusqu'à sa mort dans les années 80. Son répertoire donnera lieu ensuite à un nombre incalculable de reprises, comme ici dans la voix du groupe Madre Deus.
Maio,
Cyril, le fado comme bande-son du retour de la démocratie, c'est assez paradoxal parce que la dictature de Salazar en avait fait un instrument de sa propagande.
Et ceci au nom des valeurs traditionnelles du Portugal. La devise du régime, ce sont les 3 F, fado, football et Fatima. L'église catholique omniprésente dans la société, la passion du foot, l'autre religion, et donc le fado, cette musique de l'âme qui exprime si bien la saudade, l'essence de la nation portugaise et sa mélancolie. Pour servir sa cause, la dictature va chercher à mettre au pas, en quelque sorte, le fado, car c'est une musique venue des bas-fonds, c'est la musique des marins, des prostituées, des marginaux. Et à partir des années 30, le régime qui s'installe va donc serrer la vis. Les artistes devront, par exemple, déclarer leurs textes à la censure avant de les enregistrer. La pratique sera très encadrée via des maisons de fado et les grands artistes du genre serviront d'ambassadeurs du Portugal à l'étranger. Cette voix déchirante, c'est celle de la plus célèbre des fadistas, Amália Rodrigues, adulée dans le monde entier. Amália qui sera souvent accusée d'avoir servi la propagande de la dictature. Pourtant, certaines de ses chansons, comme celle-ci, témoignent d'une vraie indépendance d'esprit. Le texte s'intitule Abandono, il parle d'un détenu emprisonné parmi les opposants politiques. À cause de ta libre pensée, ils t'ont enfermé au loin, là où ma complainte ne peut t'atteindre. À l'époque, en 1962, Amália Rodrigues aurait pu tout à fait être censurée avec un texte pareil.
Alors Cyril, aujourd'hui, 50 ans après la fin de la dictature, le fado est toujours bien vivant dans la culture portugaise, mais cette musique a-t-elle encore quelque chose à dire?
Eh bien oui, à condition d'aller chercher au-delà de la carte postale, de ne pas se cantonner au restaurant pour touristes de Lisbonne qui servent du fado à tous les repas. Certains artistes s'efforcent de moderniser le fado tout en perpétuant la tradition. Dans les années 2000, c'était Cristina Branco ou Missia. Aujourd'hui, bien une chanteuse par exemple comme Lina a repris le flambeau. Son nouvel album Fado de Camões rend hommage à un grand poète portugais chanté autrefois par Amália Rodrigues. Un pied dans le passé donc, et l'autre bien dans le présent avec des sonorités actuelles et des collaborations.
Toda a sorte que isso me dera da morte, de maneira me sucede.
Cyril Sauvageau et la BO du Monde, c'est chaque lundi avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. Le 18-20, ça continue avec le journal de 19h et Hélène Philly qui vient de s'installer. Puis juste après, il y a le téléphone sonne. Bonsoir Philippe Lefebure.
Bonsoir à tous.
Rédacteur en chef du 18-20. Philippe, ce soir, on parle d'autorité.
Oui, autorité à l'école notamment et en dehors. Isabelle sur l'appli Inter, même dans les petites villes comme celle où j'enseigne, nous perdons des enfants qui voient plus de profit à rejoindre des bandes qu'à écouter leurs parents ou leurs professeurs. C'est un triste constat écrit Isabelle, pour quelqu'un de très optimiste comme moi, MH, sans doute Marie-Hélène, sur WhatsApp, est-ce qu'on peut croire en 2024 que la sanction seule peut amener les enfants à s'améliorer? Après 30 ans d'enseignement, cela me semble aberrant, tant les enfants ont besoin d'encouragement. Fabienne, appli Inter, ce n'est pas l'éducation nationale d'éduquer, elle n'a pas à élever les enfants. Nathalie, toujours sur l'appli, comment rétablir l'autorité auprès des enfants si les parents ne respectent pas eux-mêmes le corps enseignant? Voilà, tu casses, tu répares, tu veux intervenir au Telson, tu appelles.
Et merci PL, ça doit être Philippe Lefebure.
Sans doute.
Voilà, 01 45 24 7000 pour dialoguer avec nous dans le téléphone sonne. C'est le même chemin par WhatsApp. Il est 19h.